Le monde au féminin. Féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
L'Organisation internationale de la francophonie a lancé un fonds de solidarité pour financer des projets à destination des femmes d'Afrique, des Caraïbes et du Liban. Le fonds baptisé La Francophonie avec elle a démarré avec une donation initiale de près de 3 millions d'euros et 59 projets ont été sélectionnés dans une vingtaine de pays dont le Sénégal, le Bénin, le Cameroun et le Maroc. Il est conçu pour s'inscrire dans la durée en progressant vers de nouveaux projets. La secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, a rappelé que les femmes et les filles sont les plus touchées quand une crise survient. 700 millions de femmes travaillent dans l'informel et leurs revenus ont chuté de 60% depuis le début de la pandémie et 743 millions de filles dans le monde ne vont plus à l'école depuis le mois d'avril 2020. Au Maroc, très peu de femmes victimes de violences conjugales saisissent la justice selon une étude officielle. Elles sont seulement 2% à le faire pour des violences sexuelles et 7% après des agressions physiques. Concernant les violences subies dans l'espace public, 22% des victimes portent plainte quand il s'agit d'agressions physiques et moins de 4% pour agressions sexuelles, selon le rapport réalisé avec le soutien d'ONU Femmes. Environ 40% de femmes victimes de violences dans un cadre professionnel ont dû changer de travail. Le Maroc a adopté en 2018 une loi contre les violences faites aux femmes, mais le texte qui ne prend pas en compte les violences conjugales a été jugé insuffisant par des associations féministes. L'écrivaine camerounaise Djaili Amadou Amal a remporté le Goncourt des lycéens 2020 pour son roman Les Impatientes. C'est un livre subtil qui permet d'observer la question du mariage forcé par le prisme de ce témoignage émouvant, a déclaré la présidente du jury, Clémence Nominé. Ayant été mariée de force à 17 ans à un polygame, Djaili Amadou Amal met en scène des femmes victimes d'une société patriarcale. La lauréate a déclaré que l'intérêt porté par les lycéens sur les violences faites aux femmes signifie un espoir pour l'avenir. Deux jours avant de remporter le prix, elle avouait avoir vécu des moments exceptionnels depuis sa présélection au Goncourt. « Ensemble, nous avons porté l'espoir dans une nouvelle dimension, l'espoir d'un lendemain meilleur non seulement pour la femme, mais pour l'humanité », avait-elle déclaré.
Parole de femme.
Libérer la parole des femmes est un combat dans lequel s'est engagée la réalisatrice togolaise Selom Mensa pour briser le silence imposé aux femmes dans les sociétés patriarcales. En prélude des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, elle a publié son ouvrage « Paroles aux femmes », un recueil de poèmes diffusé également en court-métrage poétique. Kay Lawson nous invite aux portes de son univers bouleversant.
L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre la liberté d'expression. Mais dans beaucoup de milieux au Togo, les femmes expriment difficilement ce qu'elles ressentent. Donner l'opportunité aux femmes de parler de leurs ressentis relève donc du tabou. Selon Messin vient casser les codes en publiant une balade poétique titrée « Parole aux femmes ».
J'ai eu la chance de rencontrer des femmes inspirantes au cœur brisé. Je les incite à s'exprimer parce que tout simplement, quand une femme s'exprime, c'est qu'elle est en meilleure interaction avec la société. Et dans le recueil, je l'ai très bien dit, il y a des femmes qui vivent des choses très douloureuses. Que ce soit les femmes qui sont battues, que ce soit les femmes qui sont dans le processus de la perte d'un enfant. C'est vrai que je ne me sentais pas forcément légitime de sortir ce recueil de poésie. Mais j'ai estimé au final que tout un chacun a le droit de s'exprimer et a des choses à dire. Et mérite d'être entendue tout simplement.
Pour Adeline, cette amoureuse de la littérature, l'œuvre Parole aux femmes est un bel engagement.
C'est extrêmement important pour les femmes de pouvoir s'exprimer librement parce qu'elles n'ont pas souvent l'occasion d'exprimer leurs ressentis. Et Parole aux femmes, c'est justement l'occasion de pouvoir faire vivre à tout le monde les sentiments que ces femmes ont.
La divorcée assume, rien à foutre. Elle est bien mieux sans un homme. Les railleries, elle passe outre. À présent, la vie, elle la croque comme une pomme.
L'écrivain Steve Bojona a parcouru les 26 poèmes de ce recueil qui est une compilation de témoignages. Il a été le plus émerveillé par le poème « La divorcée ».
Très souvent, lorsque on a ces femmes qui vivent le divorce, il y a la société qui est toujours derrière pour en quelque sorte la critiquer, sans forcément savoir si elle en est la cause ou si elle est victime. Si elle vit en fait un bonheur dans son divorce que le malheur. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment un message assez fort, assez poignant vis-à-vis de ceux-là qui pensent que d'ailleurs des fois, quelles que soient les difficultés, il faut toujours maintenir son couple. Alors que parfois, on sait que cela pourra d'ailleurs virer au drame.
Le musellement de la femme dans la société est une forme de violence, affirme sans ambiguïté Cheka Malou, président de l'association On est ensemble.
Empêcher les femmes de parler, c'est une forme de violence, clairement. La liberté d'expression, c'est un droit qui est normalement concédé à tous les êtres humains, donc hommes et femmes. Dans nos sociétés africaines et particulièrement dans la société togolaise, nous faisons beaucoup la promotion du silence. Et les femmes encore plus. On est éduqués en se disant qu'on ne doit pas dire tout. Pourtant, je pense que c'est important de pouvoir mettre des mots sur nos mots.
Pour un dernier vers, une petite recommandation de l'écrivain Steve Bojona.
Là, on dit parole aux femmes. Mais c'est un livre également que beaucoup d'hommes devraient lire.
Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Soudan, les femmes ont joué un rôle important au sein de la contestation populaire qui a conduit à la destitution en avril 2019 de l'ancien président Omar el-Béchir. Alors que le gouvernement de transition se dirige vers la démocratie, elles restent très actives et sont désormais présentes sur la scène politique. Je relate ici un reportage de Naba Mouedine qui est allée à la rencontre de ces femmes engagées. Le 10 octobre 2019, Nimat Abdallah Kair est devenue la première femme à diriger la Cour suprême du Soudan. 4 femmes ont obtenu des postes ministériels, un nombre sans précédent, dont la première femme ministre des Affaires étrangères, Asma Mohamed Abdallah. Mais elles luttent toujours pour modifier les lois et restaurer les droits dont elles ont été privées par l'application stricte de la charia sous le régime de Béchir. Samahir El Moubarak dirige le syndicat des pharmaciens, membre de l'association des professionnels soudanais qui a joué un rôle majeur dans le soulèvement populaire.
Je n'ai jamais senti un niveau acceptable qui nous permettrait de cesser la lutte. La motivation qui pousse les gens à continuer d'atteindre les objectifs de liberté, de paix et de justice est du même ordre que celle qui les a poussés à renverser le régime de Béchir.
La répression du 3 juin 2019 à Khartoum a fait plus de 120 morts, dont le fils aîné d'Amira Kabous, vice-président de l'Organisation des martyrs de la Révolution. Assise à côté d'un portrait de son fils défunt dans sa maison à Khartoum, Madame Kabous explique son engagement.
Ce que nous faisons est dans la continuité du rôle des martyrs et de leurs sacrifices, et nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Nous ne voyons pas la liberté, la paix et la justice qu'ils exigeaient, et nous continuerons pour atteindre tous les objectifs de la révolution pour lesquels nos enfants se sont sacrifiés et pour restaurer les droits jusqu'à ce que nous puissions voir le Soudan dont nous rêvons tous.
Amira Kabous et Samahir El Moubarak ont reçu le 16 septembre le prix américain Freedom House pour leur rôle dans la promotion de la démocratie au Soudan. La prestigieuse récompense a été décernée cette année sous le thème « Le pouvoir de la protestation ». En Suisse, une mère a dénoncé l'humiliation subie par sa fille, forcée dans son collège de porter un t-shirt de très grande taille frappé de la mention « J'ai une tenue adéquate » pour cacher un vêtement jugé révélateur. Plusieurs manifestations ont eu lieu à Genève depuis pour dénoncer ce qui est devenu l'affaire du t-shirt de la honte. Les critiques soulignent que ce règlement punitif ouvre la porte à des jugements subjectifs et des interprétation sexiste. L'élue genevoise Marjorie de Châtonnet a comparé cette affaire à un lynchage public destiné à stigmatiser les filles. À savoir que suite à cette affaire, le canton voisin de Vaud a banni de ses établissements scolaires cette pratique.
Si jeunesse pouvait.
Former des codeurs camerounais plus compétents et qualifiés, c'est le défi que se fixent les écoles de codage informatique créées par des jeunes entrepreneurs en nouvelles technologies. Ces centres de formation de développeurs et programmateurs offrent des cursus de quelques mois avec l'appui de partenaires nationaux et internationaux. Notre correspondant Emmanuel Juntap a rencontré ces jeunes entrepreneurs, hommes et femmes.
Aujourd'hui, à l'ère du numérique, d'avoir des compétences de coding, c'est extrêmement important.
William Elon est cofondateur de l'école de codage informatique Developers Institute Cameroun. À la base, il est promoteur d'une start-up de conception et d'emballage de drones. Un savoir-faire qu'il veut transmettre à d'autres jeunes, notamment dans le domaine du codage informatique. William Elon.
L'idée, c'est de permettre à tout le monde de créer des programmes, des logiciels, des outils à travers des lignes de code qui vont permettre d'exécuter certaines tâches. Et c'est ce qu'on appelle le codage informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développeur est le socle sur lequel l'économie numérique est en train de se développer partout dans le monde.
À Douala, la capitale économique, une jeune Camerounaise, Evelyne Bakop, de MB Code Consulting, met justement un accent sur la formation gratuite des jeunes. Des sessions de formation au métier du numérique qui durent 7 mois.
Nous avons un effectif de 20 personnes qui a démarré la formation. Parmi ces 20 personnes, on a 4 filles. Tous nos stagiaires n'avaient, avant de rentrer en formation, aucune compétence en matière informatique.
Ils font même recours à l'expertise internationale afin de mieux outiller les apprenants. Ariel Kitio, 27 ans, dirige à Yaoundé le projet VLab, dédié au codage informatique sur deux langages de programmation, à savoir JavaScript et Python. Une formation conçue en partenariat avec des Israéliens.
Deux parcours métiers sont proposés aux jeunes Camerounais. Le premier parcours, ce qui permet en fait de créer le moteur derrière une application, et le parcours des métiers de l'interface, ce qui fait joli, ce qui fait attractif. C'est une formation accélérée de 12 semaines qui va permettre aux jeunes d'avoir des compétences de haut niveau.
Le codage informatique attire aussi les enfants. Plus d'une dizaine dont l'âge varie entre 7 et 13 ans suivent actuellement des cours d'initiation à Yaoundé. Excel Kitio et leur monitrice.
Tout à l'heure, on présentait des problèmes aux enfants à travers des images. Ils devaient donc observer chaque image, dire c'est en quoi l'image consiste, ce qu'ils sont en train de voir. Ensuite, dire le problème. En plus, après, penser à une idée innovante pour résoudre ce problème.
L'économie numérique offre de belles opportunités d'insertion socio-professionnelle. Le codage informatique, par exemple, est une niche pour le taux emploi, souligne le concepteur camerounais des drones, William Elon.
Aujourd'hui, vous pouvez avoir la possibilité de créer même votre propre entreprise. Nous utilisons aujourd'hui Facebook. Derrière Facebook, ce sont des milliers de développeurs. Donc, c'est vraiment... Ce sont des compétences concrètes, ce sont des compétences pratiques qu'on vient acquérir ici.
Le Cameroun prévoit de créer 50 000 emplois dans le numérique cette année. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
À Boaké, en Côte d'Ivoire, la lutte pour l'élimination des violences faites aux filles et aux femmes est l'un des combats du Centre de solidarité d'action sociale qui accueille des victimes et innove des systèmes d'alerte accessibles aux potentielles victimes. Aïcha Diarra s'y est rendue pour rencontrer des femmes secourues par cette structure. Elle livre des témoignages poignants dans son reportage.
Ils ne me donnent pas à manger, ils ne parlent pas avec moi. Voilà. À chaque fois, si quelqu'un vient demander après moi, ils chassent la personne. Même pour boire l'eau à la maison, je paye l'eau avec mes enfants.
Victime de viol à son jeune âge, Sita Ouattara constate quelque temps après qu'elle attend un enfant de son bourreau qui finira par être son époux avec qui elle aura 6 enfants. Aujourd'hui, elle est âgée de 35 ans. Son mari a épousé 2 autres femmes plus jeunes et fait de sa vie un véritable enfer.
Il est parti marier une petite fille de 14 ans. Bon, la fille ne voulait pas de lui payer les vieux. S'il fait rapport à la fille, donc ça faisait mal. La fille dit qu'il ne veut plus le voir. J'ai pris la fille pour aller à la clinique pour la soigner. Maintenant, quand la fille a trouvé place, le monsieur dit de partir. Parce que c'est moi qui ai fait sorcellerie que la fille, s'il sort avec la fille, son bas-ventre fait mal. Donc, le mari ne veut plus me voir. Un an plus tard encore, il est parti prendre 3e femme.
Depuis l'âge de 17 ans, Edwige Kwame a fait la rencontre de son homme avec qui elle passera 22 ans de sa vie de couple. La peur d'avoir des enfants de pères différents l'a maintenue dans un foyer où elle souffre.
Par la suite, nous avons eu notre 2e fils. Et c'est ainsi que les choses même se sont empirées.
La naissance d'un 3e enfant qui vient tout basculer. Non seulement elle se prenait en charge avec ses enfants, mais aussi elle supportait des violences physiques et psychologiques.
Il me portait même par moments quand les disputes s'empirent. Il prenait plaisir à m'insulter aux yeux de tous. Il me disait même des trucs qu'on ne dit pas à une personne, à une femme, surtout à la mère de ses enfants. Vraiment, il me frustrait. Et quand c'est comme ça, quand je sors, les voisins, ça rit. Je n'arrive même pas à soulever la tête.
C'est justement ce moment précis qu'intervient le centre SAS de Boaké afin d'accompagner ces femmes et les sortir de leur traumatisme. Situé au quartier Kamonoukro, après l'assaut des SI, ce centre a été créé le 15 mai 1995. En plus des méthodes de dénonciation traditionnelles qui pouvaient mettre la vie du dénonciateur et de la victime en danger, il y a une nouvelle méthode d'approche qui a été mise en place. C'est le code USSD. Diallo Seydou est le chef de projet Stop VBG Mobile dans ce centre.
Dièse 63, étoile 7 dièse. Il y a des systèmes qui vont venir où vous allez voir les 6 types de violences. Là, vous tapez sur le type de violence dont vous êtes victime, dont vous avez constaté, que vous voulez dénoncer.
Une méthode qui donne satisfaction à ses initiateurs.
Figurez-vous qu'en 2 mois, nous avons reçu 796 cas de dénonciation.
Ce code est en phase d'essai et il fonctionne pour l'heure dans les villes de Boaké et d'Abakala. Aïcha Diarra, Boaké, VOA Afrique.
Au Cameroun, le gouvernement a suspendu des concessions foncières initialement attribuées à des industriels pour l'exploitation du bois et un projet agricole. Ces concessions ont suscité une levée de boucliers au sein des communautés concernées qui ont dénoncé une tentative d'expropriation et d'accaparement des terres. Le droit foncier ravive des tensions dans plusieurs localités du pays. Un reportage d'Emmanuel Jountap qui a notamment rencontré une cultivatrice.
Ce matin, à quelques mètres de son domicile, Suzanne Bamvula, une cultivatrice du village Pungo Aviation dans la région du Sud, débarrasse les feuilles mortes sur les troncs de bananiers plantés.
Vous voyez, en fait, nous mettons la banane à côté des maisons parce qu'on n'a pas là où travailler.
Plus de 11 000 hectares de terres cultivables sont occupés par le palmier à huile au village Pungo Aviation, qui fait partie des 18 villages dont les terres servent à la production de l'huile de palme. L'activité a débuté en 1978 avec une société d'État, privatisée plus tard en 2000. Suzanne Bamvula.
Quand je suis arrivée en mariage ici, là, j'avais trouvé mes belles-mères qui faisaient des champs un peu partout. Mais depuis que Soka Palme s'est installé, Soka Palme, ils ont pris une grande partie qui n'ont rien fait au riverain.
Les villages Bonjo 1 et 2, dans la région du littoral, sont également l'épicentre d'une vive contestation des communautés au sujet de leurs terres. Ici, certaines cultures du palmier à huile datent des années 1960. Le septuagénaire chef du village de Bonjo 2, Martin Ebo, mène le combat depuis des années.
Notre village ne possède pas de terre. Moi, comme ici, là, j'ai demandé à obtenir un titre foncier qui n'arrive pas, parce que c'est le titre foncier de la Soka Palme. Un village que la société a trouvé. Comment peut-il avoir un titre foncier au lieu que les propriétaires qui sont les Bonjo en reçoivent? L'État a donc pris avec tous nos terrains, avec toutes nos concessions.
À Yaoundé, au siège de l'ONG, Centre pour l'environnement et le développement CED, Samuel Nguifo a suivi de près le dossier des deux concessions foncières suspendues par le gouvernement.
La véritable revendication, c'est une revendication de participation.
Samuel Nguifo, secrétaire général du CED.
À peu près 85% des terres. C'est les terres sur lesquelles sont établis tous nos villages. Et sur ces terres-là, personne n'a de titre foncier, mais nous revendiquons tous la propriété coutumière. C'est là le fondement de la revendication des communautés, à la fois d'Ebo et de la vallée du Ntem. Elles estiment qu'elles sont propriétaires de leurs terres et que l'État a pris des décisions d'attribution de leurs terres ou d'appropriation de leurs terres sans discussion avec elles.
La plupart des agro-industries refutent les accusations d'accaparement de terres. Michel Noloué est président du conseil d'administration de la Soka Palme. L'entreprise possède 6 unités industrielles sur plus de 34 000 hectares pour un bail d'une durée de 90 ans à compter de juin 2000.
Si une entreprise a à sa disposition un espace d'une superficie de 23 000 hectares pour réaliser ses projets d'investissement, pour quelles raisons est-ce que cette entreprise-là s'en irait arracher les terres d'un chef de village?
Les experts ont toujours appelé à une réforme foncière au Cameroun. La dernière remonte à 1974. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Le 2 décembre 2020, la police nigériane a libéré 6 jeunes femmes et 4 nouveau-nés d'une maternité illégale, communément appelée usine à bébés, dans l'état d'Ogun. 4 jeunes femmes étaient enceintes. Elles ont expliqué à la police que la propriétaire de la maternité payait des hommes pour les mettre enceintes et vendait ensuite les enfants. Cette pratique criminelle n'est pas rare dans le pays où certaines jeunes femmes sont piégées avec des promesses d'emploi et se retrouvent enceintes, forcées d'accoucher pour voir leurs enfants vendus. La propriétaire de la maternité est en fuite. Elle avait déjà été jugée pour traite des êtres humains et était en liberté sous caution. Sa fille et un autre suspect ont été arrêtés. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.